franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, l'amour et les mathématiques sont-ils compatibles avec Frédéric Morlot et Alain Badiou?
Je me souviens que Grothendieck avait dit qu'il avait eu deux passions dans sa vie, les mathématiques et les femmes. Le comprends bien, ça.
Oui.
On peut avoir un rapport charnel aux mathématiques et amoureux.
On peut aussi allier les deux. On peut être amoureux et résoudre un problème mathématique.
Ah oui, ça m'est arrivé dans ma jeunesse. C'était des moments intenses où j'étais en effet avec une jeune femme en train de travailler sur des problèmes de géométrie du triangle, d'ailleurs, extrêmement complexe, sur les cercles inscrits, ex-inscrits, etc. Et où notre amour s'infiltrait, dans la passion du déchiffrement de la figure.
Ouais, mais vous décrivez bien,
c'est pas du tout incompatible.
Et ça participe au bonheur aussi.
Tout à fait.
Que procurent les mathématiques.
Absolument.
Hein, quand on est sur la piste aussi de la solution.
Quand on est sur la piste de la solution et quand on s'aperçoit, c'est le point fondamental qu'on a compris.
Ouais.
C'est pas simplement le résultat mécanique d'un calcul, c'est que tout d'un coup, tout s'éclaire.
C'est ça.
Le trajet tout entier s'éclaire. Ouais. Et ça, c'est un moment de ravissement, il n'y a pas de doute.
On est tellement ravis, généralement, qu'on se refait mentalement le circuit plusieurs fois de suite.
Exactement.
Il y a ce circuit de réponse dans lequel on se dit, mais
c'est pas vrai, c'est quasiment pas vrai, ça passait, quoi, ça passait.
C'est un chemin de montagne, sinueux, tortueux. Et puis on arrive sur,
oui,
sur
la comparaison que j'aime beaucoup. Il y a des choses un peu dures quelquefois. En particulier, on n'aime pas beaucoup quand on sèche, quoi. Quand on ne comprend plus, quand on est dans la nuit, mais quand on s'acharne et que finalement on a l'éclaircie finale, c'est admirable et ça ne se compare pas à grand chose finalement. Hein. C'est une intensité très particulière.
Mardi, dans la grotte d'Omonalidi avec Laurent Broussel et José Braga.
C'est une cavité, même pour un spéléologue, qui est très étroite. On vide la poitrine, un bras devant l'autre, etc. Il faut pousser avec les pieds.
Vous êtes spéléologue, vous.
Je suis spéléologue.
Oui, heureusement.
Ça aide, mais je vous avoue, on l'a visité avec José Braga. Et je vous avoue qu'on a eu quelques doutes quand même devant l'étroitesse des passages. Donc voilà. Donc après.
Vous y avez laissé une côte, hein, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Au passage.
Oui, j'ai laissé une côte. Bon, ça facilite le passage une fois qu'elle est cassée. Mais sur le moment, oui, c'est un peu douloureux. Donc voilà, ça veut dire que vraiment, ça se mérite d'aller jusqu'à cet endroit-là.
Ouais.
Il y a une centaine de mètres de progression. Et cette chambre, donc, cette pièce, est relativement reculée par rapport à la surface.
Ouais. José Braga, comment on explique justement que Omonalidi ait pu atteindre cet endroit? Qu'est-ce qu'il allait y faire exactement?
Alors, il faut bien voir que la géométrie des grottes, de cette grotte en particulier, a certainement dû changer au cours des millions d'années, et il est fort possible qu'une autre entrée qui devait exister à l'époque, par laquelle éventuellement les vestiges sont arrivés, eh bien que cette autre entrée ait été colmatée depuis deux, voire plus de millions d'années.
Laurent Broussel.
Oui, alors ça c'est le gros problème de l'interprétation rituelle en tout cas de ces dépôts. C'est effectivement comment même un australopithèque ou un homo de petite taille peut faire passer des corps dans ces boyaux. Déjà quand on est vivant c'est difficile, donc imaginez un corps ou des ossements. Comment on les amène aussi loin sous terre? Et puis si c'est le cas et si ça a 2 millions d'années, il y a un autre scoop. C'est comment? C'est clair. Parce qu'il faut y arriver jusqu'au fond dans la grotte.
Oui.
Donc il faut de la lumière.
C'est vrai.
Et ça, donc effectivement, et comme José le dit, je pense que l'approche de la géologie de la grotte, de sa géométrie, de ses liens avec la surface, n'ont pas été suffisamment poussées et qu'il faut réfléchir à d'autres entrées et à d'autres moyens d'accéder à cette salle.
Qui n'aura pas été encore découverte, évidemment.
Très sûrement.
Laurent Broussel, pour terminer, la Namibie, c'est le prochain voyage pour vous, là, avec José Braga?
Oui, tout à fait, c'est le prochain défi, puisque si on part de l'idée que l'Afrique, c'est le berceau et qu'il faut aller chercher les pièges géologiques, eh bien, nous avons identifié en Namibie, il y a plusieurs secteurs très intéressants, dont un nous semble justement rassembler toutes les conditions à la fois pour piéger les fossiles au bon moment et surtout pour les préserver jusqu'à aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc une nouvelle aventure qui démarre quasiment à zéro parce que c'est de l'exploration.
Mais il faut de la patience dans votre domaine aussi. Hein.
Il faudra du temps. Donc là, on en parlera. Il faudra un peu plus temps pour amener des résultats probants.
Ouais.
Mercredi, la notion de race blanche est-elle scientifique? La réponse d'Axel Kahn.
Entre le grand Scandinave et le petit pygmée, il y a des différences. Mais on ne peut pas réduire cela à des races. Simplement une observation. Si on parle de race noire, évidemment, il n'y a strictement rien à voir avec le Peul élancé et puis le Mélanésien ou l'arborigène australien qui viennent d'une même population qui a quitté l'Afrique. Il n'y a rien à voir. Il y a plus de différence entre le Bantou et le Peul qu'il y a entre le Peul et le grand Italien ou bien le grand Berbère. C'est totalement absurde. Donc il n'y a pas de race blanche, il n'y a pas de race noire.
Comment on nomme ça, ces différences? races quand même qu'on...
Il y a, si vous voulez...
Des ethnies oui, de quoi on parle on peut...
Alors, ethnie, c'est un tout petit peu différent, puisque ethnie n'est pas que basée sur la notion, on va dire, de population. C'est aussi un ensemble culturel, ouais. etc. Moi, je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a une diversité. Si jamais on démontrait que, et on voulait parler de race, eh bien, on l'a dit, de toute façon, cela ne justifierait pas qu'elles seraient différentes les unes des autres et que leur dignité serait différente. Et le racisme n'a rien à voir avec cela. Mais il faut tout de même, si vous voulez, éliminer des préjugés parce qu'ils sont grossiers. Voilà, ils sont totalement grossiers. Ce qui s'est passé, c'est que quand ces populations ont quitté l'Afrique il y a 70 000 ans, on vient tous d'Afrique et on a quitté l'Afrique à 70 000 ans. Ces populations ont rejoint, par exemple, l'Australie il y a environ 50 000 ans. Et puis, ils sont arrivés il y a également 50 000 ans en Géorgie. Et de là, ils se sont répartis dans la totalité de l'Europe. Évidemment, il y a des caractères qui ont évolué. Et puis surtout, il y a une sélection naturelle. La couleur de la peau, c'est uniquement lié au rachitisme, à la vitamine D et au soleil. Sans doute, tous les hommes qui ont quitté l'Afrique étaient noirs. Mmh. Voilà, sans doute. Et puis, à un moment donné, la peau noire empêche de recevoir les rayons du soleil qui sont indispensables pour activer la vitamine D. Or, la vitamine D évite le rachitisme qui peut être extraordinairement préjudiciable. Donc, peu à peu, l'évolution a sélectionné des gens dont la peau était moins noire et d'autant moins noire qu'ils étaient plus au nord, de telle sorte qu'ils ne soient pas rachitiques. C'est uniquement cela. Ça n'a rien à voir avec une affaire de race. Voilà, vous savez tout.
Jeudi, les psys sont-ils des surhommes ? Christophe André nous répondait.
J'ai bien fait d'être psychiatre. Je pense que ouais. si j'avais été plombier, coureur, pilote automobile ou pilote d'avion, ça aurait été une beaucoup moins bonne idée. Je serais resté avec... Voilà, il aurait fallu que j'aille moi-même passer beaucoup de temps chez un thérapeute. Là, je suis en maintenance permanente grâce à mon
c'est
métier.
Ça. Oui, et cette anxiété, cette timidité qui était là, en tout cas très forte au début, c'est important aussi pour vous que vos patients le sachent.
Alors, c'est très important, notamment alors pour la timidité. Moi, j'ai le souvenir très précis de toute l'époque où à Sainte-Anne, nous étions ultra spécialisés dans ces questions d'anxiété sociale. Mmh. Nous traitions ça sous forme de groupe, c'est ce qu'il y a de mieux. On réunit les personnes qui ont très peur de regarder les gens dans les yeux, de parler devant les groupes, etc. Et je demandais systématiquement à tous les stagiaires, tous les médecins, stagiaires, etc. Caroline, tu te souviens
On
faisait partie. Je leur disais, voilà, le premier tour de table qu'on va faire avec nos patients, je vous demande, aux uns et aux autres, tous soignants que vous êtes, de parler de vos propres moments d'anxiété sociale, de votre trac, de vos doutes, de votre timidité, parce que vous ne me ferez pas gober que vous n'en avez pas. Et tout le monde avait des trucs à raconter. Et la tête des patients, lorsque nous, médecins, soignants, psychologues, infirmiers, nous parlions tranquillement, en disant, voilà, moi, pendant longtemps, je ne pouvais pas parler en groupe. À la fois la surprise, la réassurance, se dire, punaise, mais c'est possible, des humains sympas qui ont pu dépasser ça. Eh bien, je pense que c'était un des grands ingrédients qui les aidait à avancer.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.